tú eres muy malo, muy, muy malo. La interpretación siempre negativa, siempre negativa.
Y digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy.
En face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Piqué, il faut qu'il aille avec Shakira, avec tout, la carrosserie, je sais pas, regardez.
Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas, no sé.
No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro.
Ah.
Esa es la diferencia.
Yo creo que vocalizo muy bien, pero
sí,
bueno.
Sí, bueno, pero yo en este caso creo que no.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de Ligue Actu, 17e journée du championnat avec quasiment la fin de la première partie de saison déjà écoulée. On arrive maintenant à la fin décembre, bientôt on est à une dizaine de jours de Noël et des fêtes. Et on a une journée de Ligue 1 qui s'annonce à nouveau passionnante avec plusieurs beaux matchs, mais un en particulier, c'est celui de ce dimanche entre le Real Madrid et Villarreal. Pour nous parler du Real Madrid, alors Sacha, son grand malheur, n'est malheureusement pas avec nous, mais c'est JB de la page Madridistas qui est là. JB, comment ça va?
Bah, ça allait très bien jusqu'à ce que j'apprenne que Sacha refuse ma présence pour ce podcast. Je suis un peu déçu de lui, honnêtement, je n'oublierai pas cet affront. Mais plus sérieusement, non, ça va très bien, toujours prêt à parler du Real. Aujourd'hui, ce week-end, on va défier le sous-marin jaune. Faudra prendre les 3 points, du coup, on est prêt pour ça, mais sinon, toujours ravi de te réinviter. Merci à toi pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Et puis en même temps, je tiens à préciser que Sacha n'est pas absent pour des raisons sportives ni autres, ni pour refuser ta présence. D'ailleurs, JB qui fait toujours très plaisir. Mais je suis sûr qu'il écoutera en tout cas ce passage et que ça le fera sourire. Et puis évidemment, pour nous parler de Villarreal, on retrouve Emeric qui est supporter du sous-marin jaune. Emeric, comment ça va?
Salut les gars, ça va très très bien. On s'en sort très bien hier. On a une petite frayeur, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais tout va bien.
Ouais, tu l'as dit, bon, on va reparler justement d'Europe dans quelques instants. Mais on va d'abord commencer par parler un peu du Real Madrid qui conclut voilà, cette phase de poule européenne avec 6 victoires en 6 matchs. Certaines qui ont été plus compliquées que d'autres, évidemment, on va y revenir. JB, toi, quel est un peu le bilan que tu dresses de ces 6 matchs, de ces 6 victoires? On l'a dit, donc 18 points, une large première place du coup. Et voilà, ton bilan un peu sur cette phase de poule et puis un adversaire, pourquoi pas, que tu aimerais. Sur lequel tu aimerais voir le Real Madrid tomber en 8e?
Bah, honnêtement, il est compliqué de ne pas être satisfait du parcours du Real. Le Real fait le 6-6, ce qui n'était pas arrivé depuis 2015 avec justement ce Real Madrid-là. Donc le Real prend tous les points possibles. Ça fait vraiment plaisir, en plus avec un nombre de blessures qui est assez importante. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais bon, les Courtois, les Militao, les Vinicius, les Camavinga, Tchouaméni et compagnie ont très souvent été absents, notamment pour la fin de la campagne, pour les derniers noms que j'ai cités. Et du coup, on peut se satisfaire. Alors, au début, honnêtement, on avait assez peu de jeux proposés de la part du Real. Mais si on regarde les derniers matchs, le Real propose un peu plus de jeux. On voit une patte Ancelotti qui se dégage un peu plus qu'à l'accoutumée. Donc, on peut vraiment être satisfait de ça. Maintenant, pour un adversaire, entre guillemets, favori pour les huitièmes de finale, il n'y a pas d'équipe qui, entre guillemets, si je suis totalement honnête, me fait très, très peur. Je crois que le Real peut jouer Copenhague, le PSV, l'Inter, la Lazio, le PSG, Leipzig et le dernier, c'est Porto, je crois.
Je crois que c'est Porto.
Donc, honnêtement, quand t'es le Real Madrid, surtout quand c'est dans ta compétition préférée qui est la Champions League, tu dois avoir peur de personne. Mais là, il n'y a pas de noms forcément qui peuvent retenir notre attention. Maintenant, c'est sûr que jouer contre une équipe comme le PSG, c'est jamais simple parce que bon, on ne connaît jamais leur réel état de forme, leur réel niveau de jeu. Et c'est tellement instable que bon, on sait jamais à quoi s'attendre réellement. Ça peut être le meilleur comme le pire, même si ces dernières années, on est plus souvent abonné au pire qu'au meilleur. Faut quand même rester sérieux. Donc le PSG, ce serait quand même pas un tirage simple. S'il n'y a pas de tirage simple, il faudra forcément se donner à fond. Mais bon, si je devais choisir un tirage, honnêtement, je prendrais une équipe comme la Lazio. Parce que bon, avoir un Copenhague, ce serait pas forcément très intéressant. Donc autant avoir une équipe comme la Lazio, pour moi, ce serait parfait. Une équipe qui est quand même relativement intéressante à jouer, mais pas forcément très, très inquiétante pour le Real Madrid. Donc ouais, si tu devais me demander le tirage que je préférais, je demanderais la Lazio de Rome, parce que je pense que c'est l'équipe qui, en termes de jeu et en termes d'intensité, proposerait quelque chose d'intéressant au Real sans trop être inquiété. Donc voilà pour le tirage que je voudrais. Et puis une chose que je tiens aussi, comme j'ai dit, à appuyer sur le Real lors des phases de poule. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, c'est que le Real, comme j'ai pu le dire, produit un peu plus de jeux. Ces derniers temps, on l'a vu notamment face à Naples, il y a eu des moments le Rennes n'a pas hésité à produire du jeu, à mettre de la verticalité dans ses passes, mettre de l'intensité, essayer de mettre un pressing. Et c'est quelque chose qu'on avait un petit peu perdu avec le Real depuis la Ligue des Champions 2022, même si le Real ne jouait pas ultra bien. Il y avait quand même des moments où c'était assez intéressant. Là, le Real retrouve un petit peu de jeu et ça fait forcément plaisir quand tu es supporter du Real, quand tu es amateur de football, de voir ton équipe jouer, produire du jeu et s'amuser. Forcément, tu prends plus de plaisir que si tu es assis devant ton canapé, que tu regardes ton équipe qui, entre guillemets, excuse-moi l'expression, mais te fait chier pendant 90 minutes où tu produis rien, où il n'y a pas de mouvement et juste tu passes la balle verticalement sans frapper, sans danger. Et bah là, c'est pas ce que propose le Real depuis quelques matchs, c'est important de le dire, c'est pour ça que je le souligne.
Et juste peut-être par rapport à un point rapide, par rapport à quelque chose qui est pour le coup peut-être un peu plus critiqué, c'est les buts encaissés. Il y a eu beaucoup de matchs quand même où le Real Madrid a encaissé pas mal de buts, en Ligue des Champions, bien sûr, je parle pas forcément en Liga, mais est-ce que toi, ça t'a préoccupé ou pas spécialement?
Tu l'as très bien dit, il y a une différence entre la Liga et la Ligue des Champions. En Liga, le Real est la meilleure défense du championnat avec 7 buts, 9 buts encaissés. Je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire. Mais on a un Real qui est vraiment sérieux en défense en Liga et c'est important de le noter. Alors maintenant, en Ligue des Champions, le Real a pris plus de buts, c'est sûr. Notamment à Naples, on prend 2 fois 2 buts. C'est sûr que c'est pas forcément très reluisant pour la défense d'Ancelotti. Maintenant, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je pense pas. Honnêtement, comme je l'ai dit aussi, on a eu beaucoup de blessures, notamment sur le plan défensif où forcément on a pas mal de trous. Quand je parle des joueurs aussi importants que Militao et Courtois qui sont selon moi les deux Real leaders de la ligne défensive du Real depuis 3-4 ans, forcément c'est compliqué de s'adapter sans. Le Real l'a plutôt bien fait, même si ça n'a pas été parfait. Donc pour moi, il n'y a pas de réelle inquiétude à avoir par rapport sur le plan défensif, même si bon, je dis pas que tout va bien, au contraire, mais c'est pas comme s'il y avait le feu à la maison encore. Je pense que dans les matchs coup près, le Real sera élevé son niveau de sur le plan défensif, peut-être élèvera un petit peu son sérieux, parce que bon, on a pris quelques buts bêtes aussi, je pense, qui auraient pu nettement être assez évitables, notamment des buts sur coup de pied arrêté. Je me souviens du but d'Ostigord contre le Real au match aller à Naples, où je pense que le but est assez largement évitable. Mais je suis pas inquiet pour ce Real-là sur le plan défensif, d'autant plus qu'en Ligue 1, on est assez sérieux, on le voit, on sait faire le dos rond, ça on a toujours su le faire, mais on prend beaucoup moins de buts, et je pense que le Real peut être sérieux sur le plan défensif dans les grands matchs.
Très bien, ouais, bah, en tout cas merci beaucoup pour ton analyse un peu sur cette phase européenne qui s'est achevée cette semaine, donc on l'a dit, et puis on aura évidemment au mois de février comme toujours le début des huitièmes de finale, le tirage au sort d'ailleurs dès ce lundi si je ne me trompe pas, ouais, pour les huitièmes. Et puis bah, du coup on va parler maintenant de Villarreal avec toi Emeric, parce que on avait déjà un peu parlé avec Cyril il y a quelques temps, c'était évidemment le retour de Marcelino qui était très attendu au vu de la situation qui était assez compliquée. Il y a eu avant qu'on parle de Marcelino, il y a eu quand même un fait, tu l'as dit, important ce jeudi, c'est la qualification en Europa League avec une première place obtenue en plus à l'issue d'un match gagné du côté de Rennes, une première place du coup. Toi, quel était un peu ton avis sur le match d'abord contre Rennes et puis sur l'ensemble de cette phase de poule d'Europa League qui n'a pas forcément été toujours très bien embarquée, on va dire, mais qui au final se conclut plutôt bien?
Ouais, bah hier c'était un peu l'apothéose de tout ce qui s'est passé en Europa League pour nous cette année. On réussit à passer premier du groupe avec 13 points, si je dis pas de bêtises. Ouais. Une seule défaite face au Panathinaikos au premier match quand il y avait encore Sétienne à l'époque. Ça a toujours été un peu tiré par les cheveux, le retour au Pana où j'avais l'occasion d'être au stade, on mène 3-0 puis à 3-2. Face au Maccabi Haïfa qui s'était pas entraîné depuis un mois. On n'a pas réussi à produire notre jeu et on gagne 2-1 un peu à l'arraché grâce aux remplaçants et ça coûte la tête de Pacheta. Au retour, on fait un match nul. À Rennes, à la maison, on gagne avec un pénalty à la fin de Terrier qui est arrêté par Reina et sa tête sort juste après. Puis là, le match de hier, c'est un sketch sans nom. L'arbitre a été très mauvais. On prend un but à la toute fin, pour ceux qui ont suivi, à la 102e minute, qui est annulé parce que le fait qu'il met un coup franc sur la barre retouche la barre avant de faire une passe, enfin retouche le ballon, pardon. Donc c'est tiré par les cheveux, mais on voit quand même que Marcelino a ramené de la compétitivité. On garde nos problèmes qu'on avait un peu avec les autres entraîneurs, on prend des buts assez débiles, on a du mal à gérer nos temps forts et nos temps faibles. Mais malgré tout, l'équipe sait réagir. Hier, on mène 3 fois au score, on se fait revenir 2 fois, mais on arrive à marquer juste après ses buts. Donc l'équipe est un peu plus forte mentalement, mais nos démons vont nous suivre toute la saison, à mon avis, comme Cyril l'avait bien souligné.
Et par rapport justement à la suite de la compétition, donc on rappelle que voilà, Villarreal sera directement en huitième de finale, est-ce que tu te fixes un objectif particulier ou au contraire, voilà, il y a quand même une situation qui en Liga n'est pas forcément très reluisante non plus. Est-ce que tu préfères mettre justement l'accent sur la Liga où tu estimes que quand même le sous-marin jaune a, surtout avec Marcelino peut-être, un intérêt à jouer jusqu'au bout l'Europa League?
Bah, la vraie bonne nouvelle, ouais, comme tu le soulignes bien, c'est qu'on soit passé premier de groupe. Ça nous fait rejouer l'Europe qu'à partir du 8 mars. Donc, bah, ça évite quand même un tour. Ça nous permet, nous, bah, de prendre un peu de temps. Il va y avoir la trêve hivernale qui va faire du bien et où Marcelino a déjà ciblé. Il fallait recruter au moins un défenseur central si Gabbia ne part pas, sinon deux, et un ailier pour remplacer la blessure de Pino qui se traduira sûrement par un prêt sec dans un plutôt grand club. Donc, il n'y a pas vraiment pas d'objectif, à mon avis, en Europe. On est déjà en huitième. Avec un peu de chance au tirage, tu prends une équipe assez abordable en huitième, tu es en quart. À mon avis, après, tu calcules plus. Si tu as l'occasion d'aller au bout, on crachera pas dessus.
Ouais, bon, on suivra ça en tout cas très très rapidement aussi parce que tu l'as dit effectivement donc l'intervention du coup l'entrée en tout cas le retour de Villarreal pardon en Europe en 8e en mars, mais il y aura évidemment du coup le tirage au sort et puis d'ici là aussi peut-être des objectifs entre guillemets adaptés selon la situation en Liga sur laquelle on va revenir un petit peu après justement en parlant plus en détail de Marcelino. Je repasse avec toi JB pour un autre débat, un autre sujet qui fait du bruit du côté de Madrid, qu'on n'avait peut-être pas forcément vu venir il y a encore quelques semaines, mais qui aujourd'hui en tout cas prend tout son sens. C'est celui du gardien titulaire dans les cages du Real Madrid. On l'a vu, Lounine a fait de très solides performances pendant l'absence de Kepa. Au contraire, des autres saisons où il était parfois quand même un peu moins rassurant et beaucoup plus critiqué. Et donc certains supporters, en tout cas du Real Madrid, Ancelotti aussi a été interrogé sur ça. Voilà, pense pourquoi pas laisser un Lounine titulaire en tant que gardien du Real Madrid jusqu'au retour, pourquoi pas de Courtois. Toi, comment tu le perçois? On sait que Kepa a été un peu critiqué, notamment pour son match aussi à Berlin cette semaine en Europe. Voilà. Toi, quel gardien tu préférais avoir dans les cages, on va dire en Europe et en Liga, du moins dans les matchs vraiment importants?
Bah écoute, tu le dis très bien, c'est le débat actuellement, enfin le débat autour de l'effectif actuellement qui entre guillemets divise la communauté madrilène, à savoir aligner Kepa ou Lounine. Alors au début de saison, quand Kepa s'est vu prêter au Real, déjà il y a eu un débat par rapport au titulaire à ce poste-là. Lounine n'avait pas fait un excellent début de saison, c'est pour ça que Kepa s'est vite retrouvé titulaire. Kepa avait fait le travail. Sauf qu'il y a, juste avant la trêve, Kepa s'est blessé et ça a relancé le débat parce que Lounine, comme tu l'as très bien dit en introduction de la question, fait des performances vraiment très intéressantes depuis la blessure de Kepa. On aligne à ça le retour compliqué de Kepa qui n'a pas été forcément très très bon, comme tu as pu le dire, face à l'Union. Et du coup, on a une concurrence qui est assez compliquée à lire, où on ne sait pas vraiment qui doit jouer et qui doit être sur le banc. En plus, Lounine a quelque chose peut-être qui est un peu plus développé par rapport à Kepa, c'est le jeu au pied. On a vu que Kepa a beaucoup de problèmes sur les relances. Et ça, c'est quelque chose que quand tu joues au Real Madrid, c'est forcément compliqué parce qu'on sait que le Real est une équipe qui déteste balancer devant. On aime bien sortir derrière les ballons proprement, etc. Du coup, forcément, c'est très rare de voir le Real balancer des ballons. Ce que Kepa peut faire un petit peu parfois. Donc forcément, sur ce point de jeu-là, c'est compliqué pour Ancelotti et le staff. En plus, on voit qu'Ancelotti réfléchit, parce que quand Lounine avait joué, je ne sais pas si vous vous souvenez, en conférence de presse, la question lui avait été posée, et Ancelotti avait dit que non, quand Kepa sera là, c'est lui qui retournera titulaire à ce poste-là. Et puis là, cette semaine, Ancelotti a dit que bah, finalement, on va réfléchir, on verra qui sera titulaire. Donc on voit que le staff se pose très clairement la question. Moi, si tu me demandes mon avis, honnêtement, je pencherais plus vers Lounine. Honnêtement, j'aime bien les deux. Je trouve que les deux ont leur apport. Je pense qu'en termes de réflexe pur et dur, Kepa est certainement un peu plus haut. Maintenant, comme j'ai pu le dire, en termes de relance, en termes de sérénité balle au pied, Lounine m'aspire un peu plus confiance tout de même. Mais dans les deux cas, je pense que je serais encore relativement pareil au niveau de la sérénité. Maintenant, je pense que vaut mieux privilégier Lounine. Lounine est sous contrat avec le Real Madrid depuis maintenant 3 ans, 4 même peut-être. Il n'a pas eu réellement sa chance. C'est sûr, quand tu as Thibaut Courtois en face de toi, c'est compliqué de trouver de réelles occasions de se présenter. Même les rares fois où Courtois était blessé, c'était compliqué, on voit, de prendre la succession du Belge. Pour l'instant, il le fait bien. Il est encore sous contrat. Il est plus jeune que Kepa. je pense vraiment qu'il faut foncer sur... Enfin, faut vraiment privilégier l'Unin pour les prochains matchs. Alors oui, tu l'as dit, il y a plusieurs compétitions. On se souvient qu'il y a une dizaine d'années, Diego Lopez et Iker Casillas se partageaient le poste en Ligue des Champions et en championnat. Pourquoi pas faire ça pour au moins tester pendant quelques temps et voir... Du coup, il n'y a plus de Ligue des Champions avant février, mais au moins tester peut-être les deux goals sur différents matchs et on voit lequel retient le plus notre attention. Maintenant, honnêtement, c'est compliqué de faire un choix, mais si tu me demandes mon avis, comme j'ai dit, je pense que je privilégierais André Lounine.
Voilà. D'accord, ouais, donc plutôt Lounine comme aussi, tu l'as dit, une grosse partie des supporters madrilènes le souhaite parce que c'est vrai qu'il est dans une forme assez impressionnante. Et puis, que tu l'as dit, voilà, il est quand même depuis un certain temps avec, en tout cas à Madrid, et il a eu relativement peu de chance, peu de continuité aussi dans les cages, qu'il n'a pas forcément beaucoup aidé, on va dire, à prendre du rythme.
Puis même si je peux rajouter quelque chose, excuse-moi, mais Lounine n'a pas forcément fait de boulette depuis le début de saison. Kepa en a fait quelques-unes. Déjà contre le but de l'Union cette semaine, sa relance n'est pas forcément exempte de tout reproche. Pardon. Pareil, on se souvient contre Naples, je l'avais dit en intro, mais le but d'Ostigord, il est fautif aussi. Donc c'est vrai que Kepa a fait quelques erreurs qui forcément dans la concurrence ne l'aident pas. Maintenant... Comme j'ai dit, j'ai une préférence pour Lounine, mais c'est pas définitif et les deux m'inspirent à peu près le même niveau de confiance.
Très bien, ouais, donc plutôt Lounine, mais effectivement, voilà, deux gardiens comme qui sont Lounine en forme en ce moment, Kepa qui a aussi une certaine expérience et qui a voilà, quand même aussi fait de bons matchs. En tout cas, on suivra la suite de ce débat dès ce week-end, justement, et puis dans les prochaines semaines. Mais je reviens avec toi, du coup, Aymeric, pour un dernier point, avant qu'on parle directement du match en lui-même. C'est évidemment, du coup, Marcelino, qui est revenu maintenant il y a quelques semaines. Il y a eu des rencontres qui ont été réussies, d'autres un peu moins. On pense notamment à la réception de la Real Sociedad le week-end dernier, qui a été très difficile avec une grosse défaite. Il y a eu quand même, voilà, malgré tout, cette qualification, on l'a dit, en 8e d'Europa League. Voilà, donc toi, de ton point de vue, puis même du point de vue peut-être de la communauté aussi, comment est-ce que vous jugez un peu le retour de Marcelino? On sait que voilà, qu'il fait avec un effectif qui n'est pas forcément celui qu'il a voulu, parce que c'est pas lui qui était en poste, en tout cas au moment du dernier mercato. Il y a plusieurs pistes de recrutement, tu l'as dit, qui sont éventuellement ciblées. Mais voilà, jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à cette mi-décembre, qu'est-ce que tu penses un peu de ce que fait Marcelino sur le banc du club?
Eh ben, personnellement, j'étais pas tout à fait pour le retour de Marcelino. Il avait un peu laissé le club à 100 avant le match de phase de tour préliminaire de Ligue des Champions en 2016 avec plusieurs embrouilles et même le directeur sportif qui était parti à côté de lui. Malgré ça, force est de constater que son arrivée a quand même fait du bien à l'équipe, même si le jeu reste pas très flamboyant et les résultats sont toujours tirés par les cheveux, comme son premier match en coupe à Zamora où le lendemain de son arrivée, on gagne 2-1 dans les prolongations. Marcelino, par contre, à l'instar de mon avis, a été accueilli comme un demi-dieu chez nous. On savait qu'il fallait passer par un entraîneur assez charismatique et encore mieux qu'il soit passé par chez nous, qu'il connaisse très bien le club pour se relever de cette situation. On va pas se mentir que quand Marcelino arrive, on vient de passer 2 mois avec Pacheta où il a gagné qu'un seul match. Le niveau de jeu est catastrophique et les résultats sont pas là. On voit une équipe qui est très tiraillée, qui, dès que quelque chose se passe mal, dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, tout s'enraye. Donc, plutôt content de ce que fait Marcelino. Pour revenir sur le 3-0 contre la Real Sociedad, j'ai été au stade. Et c'est vraiment le résumé de cette saison. Je trouve qu'on fait 7-10 minutes très très moches, très horribles. Avant ça, on fait 30 bonnes minutes où on ne convertit pas 2-3 grosses occasions, même si Jorgensen nous en sort une grosse. Et voilà, on prend ce but de Merino sur un corner où tout le monde est un peu spectateur. Et puis voilà, tout s'enchaîne. Parejo ne réussit plus une passe. Capou ne se place plus très bien. L'équipe commence un peu à se prendre la tête. Puis voilà, on prend 3 buts en 7 minutes. Deuxième mi-temps est pas mauvaise. On tombe sur un grand Remiro et on rate beaucoup d'immanquables. Mais le résultat est un peu sévère maintenant. Marcelino aura du boulot, on sait qu'il a signé en ayant la garantie d'avoir au moins un défenseur central de renommée entre guillemets cet hiver, donc on verra qui c'est. Je sais qu'ils étaient sur David Garcia d'Osasuna, mais ils en demandent un petit peu trop, je crois. Donc, on verra ce que ça donne après la trêve hivernale. Maintenant, je pense que Marcelino est l'homme de la situation à moyen terme. Il faudra se maintenir. Ça, c'est dur de dire ça avec les habitudes qu'on a de Villarreal, mais le plus important, ça passera par se maintenir. Pourquoi pas faire une petite épopée en Europa League? On sait que ça peut aller vite. Et puis, repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. On a beaucoup de joueurs souvent blessés ou en fin de contrat assez vieillissants qui ont beaucoup baissé de rythme. Donc, le renouvellement va être très dur et assez long, je pense.
Ouais, parce que Villarreal, pour l'instant, a 6 points d'avance, on va dire, enfin 6 points d'avance, oui, sur la zone rouge et le premier relégable qui est le Celta. Mais il y a quand même, parmi la situation que tu présentes, qui est effectivement assez difficile, il y a quand même juste un joueur qui, on va dire, va mieux depuis le retour de Marcelino. C'est Morales, comme qui enchaîne les buts. On a vu comme dans ces différentes performances, tu parlais de la Copa, tu parlais de la Liga, comme c'est des matchs où il s'est quand même beaucoup illustré. Il y a eu, alors je n'ai plus l'adversaire en tête, notamment ce match où, alors l'adversaire ne me revient pas, où il a signé un triplé.
Contre
Osasuna, voilà, merci. Bah voilà, c'est peut-être un peu le point, on va dire, positif aussi parmi les joueurs, les individualités, depuis le retour de Marcelino.
Oui, oui, totalement. C'est vrai que Morales est un peu ressuscité. Après, je vais me faire l'avocat du diable. J'ai jamais été un grand fan de Morales, même s'il nous a toujours bien aidés. Le match contre Osasuna, il a été touché par la grâce de Dieu. Franchement, il nous a fait une masterclass. Il n'y a rien à dire. Tout était réussi. Il a réussi tout ce qu'il fallait. Il a repris confiance contre Zamora en mettant ce doublé. Et après, il a un peu enchaîné les prestations, mais il pèse pas assez sur l'équipe. Moi, je le vois vraiment comme un ailier. Et je le vois un peu, en plus à son âge, dans un profil super sub qui peut faire très mal, comme hier à Rennes où Sorloth a pesé un peu sur les défenses. On gagne 2-1 et il rentre à ce moment-là. Lui, il est très bon en contre-attaque. Mais je trouve que ça reste quand même un joueur moyen, même si Marcelino l'a ressuscité. Et il faut surtout souligner que Marcelino a aussi fait du bien à Comesaña, même s'il s'est blessé à la cheville. Et d'a retrouvé Terrat, s'est rentré hier, a fait un très bon match. Donc il a fait reprendre confiance aux joueurs. Et Palero se voit peut-être pas trop à la télé, mais franchement, depuis le retour de Marcelino, c'est redevenu le grand Palero et il nous fait beaucoup, beaucoup de bien.
Ouais, donc voilà, plusieurs individualités qui reviennent à un niveau plus intéressant, même si tu l'as dit, la situation n'est pas encore parfaite, loin de là, même au contraire. Mais on va justement maintenant parler de la rencontre en elle-même avec un point rapide sur les blessures. Je reste avec toi d'ailleurs, Aymeric, si tu veux bien nous donner les absents côté Villarreal. Et puis même si, voilà, jamais il y a des retours d'absence à signaler pour dimanche.
Et comme c'est une bonne année où on va souffrir toute l'année, hier on a eu 3 blessés pendant le match de Rennes, on n'en avait pas besoin. Gabia qui a eu un trauma crânien du coup, qui est allé à l'hôpital mais qui est sorti, je pense qu'il ne sera pas disponible ce week-end par précaution. Foyce qui a rechuté, on n'a pas eu de nouvelles du club, mais vu les stories Instagram qu'il a postées, je pense qu'il en a encore pour un petit bout de temps. Coquelin qui s'est blessé au genou, pareil, le club ne communique pas trop, vous commencez à avoir l'habitude, mais ça sent pas très bon non plus. Et puis voilà, Pino qui est toujours en convalescence de ses croisés, lui ça sera jusqu'à la fin de saison. Et sinon, si j'oublie personne, normalement le groupe sera au complet à l'exception de Pedraza qui est pas convoqué depuis 3 matchs. Il devrait être disponible, mais il sera sûrement pas titulaire à mon avis.
Très bien, ouais, donc quand même quelques absents à signaler pour ce déplacement à Madrid. J'y vais du côté du Real Madrid, justement. Pareil, est-ce qu'il y a des absents à signaler des retours d'absence?
Alors là, je te prends mon calepin, j'ai 45 pages avec tous les blessés. Je sais même pas qu'on ait de médecins au club, mais là, je pense qu'ils n'ont pas dormi depuis 3 semaines. Alors, je vais vous faire la liste, hein, mais j'espère que vous êtes prêts. Alors, on a Thibaut Courtois, ligament croisé. Eder Militao, ligament croisé. Camavinga, problème au ligament croisé. Il n'est pas encore cassé. Bon, on va croiser les doigts. Chouameni, il s'est entraîné avec l'équipe aujourd'hui, mais il sera pas là ce week-end. Et clairement, c'est pour de la récupération. Vinicius, absent également. Il s'est entraîné sur le terrain aujourd'hui seul, mais pareil, pas avec l'équipe. Donc clairement, un retour n'est pas encore d'actualité. Arda Güler ne fera pas son premier match face au Morat Jaune. C'est une exclusivité à Los Madridistas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, j'ai fait Tchouameni. Donc attends, je vais refaire la liste, désolé, j'ai un petit bug.
Vas-y. T'avais commencé par Courtois.
Courtois, Camavinga, Militao. Ah, Carvajal, oui, Carvajal. Voilà. Dani Carvajal, évidemment, il sera aussi absent pour ce match-là. Et il me semble que j'ai fait le tour. Du coup, en récapitulatif, ça fait Courtois, Militao, Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius, Arda Güler. Voilà.
Voilà, donc beaucoup d'absents.
C'est presque un bon rond, non ?
Ouais, ça nous fait une belle équipe. Ouais, on est noté. Camavinga peut jouer à gauche au milieu. On a une équipe solide. On joue avec des champions cette année. On joue avec des champions. Ah, c'est...
Bah ouais, pourquoi pas le match face au Real Madrid le Real Madrid actuellement face au Real Madrid des blessés à l'avenir.
Ouais. Bah, honnêtement, je donnerai pas de pronostic, mais je vois le Real Madrid gagner. Voilà, je dis pas lequel, mais je pense que
le Real Madrid sera. C'est bien, tu t'es mouillé sur ce pronom, on le sent en tout cas.
J'annonce même un 2 buts à 1.
2 buts à 1, bah écoute. T'as de l'avance sur la section des pronoms et puis même sur le match en lui-même. Mais justement, puisqu'on parle de la rencontre, bah, je vais te passer la parole justement JB, parce que voilà, Real Madrid, on l'a dit, accueillera Villarreal donc au Bernabéu. Tu as dit à l'instant, il y a quand même beaucoup d'absents. Donc voilà, comment tu vois ce match, comment tu vois cette rencontre, et puis si tu vois, mine de rien, un joueur ou un élément particulier qui est capable de la faire basculer.
Honnêtement, c'est rare que je vienne en podcast très serein. Honnêtement, j'ai confiance en Real Madrid. Ce que propose le Real depuis 3 semaines, 1 mois, c'est vraiment intéressant. Comme j'ai pu le dire en introduction sur la question sur la Ligue des Champions, le Real recommence à produire du jeu, ce qui fait vraiment plaisir. Le Real joue bien de nouveau et forcément, la sérénité avant des matchs revient petit à petit. Donc, je suis relativement serein. Je pense que le Real va nous faire un match solide. Au milieu de terrain, je pense que le Real va réussir à imposer sa force physique, sa force technique. Je pense que Luka Modric va une nouvelle fois démarrer ce week-end, parce que c'est un petit peu le joueur qui revient ces derniers temps. Ancelotti lui offre plus de temps de jeu, donc ça ne m'étonnerait pas de voir Luka Modric démarrer une nouvelle fois. Je pense qu'un joueur comme Fede Valverde aussi aura à cœur de venir faire un gros match. Je pensais qu'il a été économisé pendant une mi-temps. Contre Union Berlin cette semaine, donc je pense que Valverde sera titulaire. Mais si tu me demandes le joueur qui sera selon moi décisif cette semaine, ce week-end, contre Villarreal, je vois Valverde. Je pense que Valverde est sur une bonne forme en plus. Il réalise de très bonnes performances depuis un certain temps. Il est redevenu le Valverde. Alors, il marque pas autant qu'au début de saison dernière, mais il est redevenu le Valverde conquérant, qui casse des lignes balles au pied et qui est très solide sur le plan défensif. Ce qu'on lui demande finalement en tant que milieu de terrain du Real. Donc non, j'ai vraiment confiance en ce Real là. Je pense qu'on sera faire le. Enfin, en plus, tu l'avais dit aussi, mais le Real défensivement est très solide en Liga et c'est la meilleure défense du championnat. Donc je pense que le Real va réussir à être très serein derrière, solide derrière, productif devant. Et bon, Rossellou, je pense, a pris un petit peu de confiance grâce à ce doublé contre Union Berlin et ce but aussi contre l'avant-dernier match de Liga. Avant le Betis. Mais ouais, honnêtement, je suis serein pour le Real. Je pense qu'on va faire un bon match. On va respecter l'adversaire parce que jouer contre Villarreal, c'est jamais un match facile, même si Villarreal n'est pas dans la forme étincelante qu'ils ont pu connaître ces dernières années. Ça reste Villarreal, un adversaire qui est quand même pas facile à jouer. Donc non, en plus au Bernabeu, je pense que le Real a vraiment de quoi faire un beau match, régaler ses supporters et continuer de prendre les 3 points et de batailler pour le titre en Liga.
Très bien, ouais, donc quand même plutôt optimiste, pas mal d'optimisme pour cette rencontre, même si tu l'as dit, ce ne sera pas facile. Le Real, oui, meilleure défense de Liga assez nettement, puisque les seconds, c'est Atlético avec 14 buts, si je ne me trompe pas, parce que non, c'est Las Palmas, pardon, avec 13 buts qui est 8e. Mais aussi, même voilà, une des meilleures attaques de Liga, aussi la troisième derrière, la deuxième même, pardon, derrière celle du Girona, donc il y a quand même effectivement une équipe qui tourne plutôt bien. Et qui est en plus à 2 points par rapport du Girona qui caracole toujours en tête, on en avait parlé déjà la semaine dernière. Et puis, Emric, je vais te poser la même question du point de vue de Villarreal cette fois-ci. Comment tu vois cette rencontre? On sait que bon, la situation évidemment n'est pas la même, on sait qu'il y a une zone rouge qui est voilà, quand même assez qui est tenue à distance avec un Celta qui n'avance pas trop, mais derrière il y a des équipes qui mine de rien entre la zone rouge et puis vous, il y a des équipes qui vous suivent de près. Donc comment tu sens ce match, quelle est l'atmosphère un peu que tu décryptes avant cette rencontre et ce déplacement qui est un des plus compliqués pour le club de Villarreal dans l'ensemble de la saison?
Bah, c'est sûr que je suis beaucoup moins serein que JB. C'est sûr que c'est pas une grosse saison. Maintenant, on voit que c'est une équipe quand même à réaction avec le nouvel entraîneur. La défaite 3-0 contre la Real Sociedad a marqué beaucoup les joueurs. Donc j'espère, je pense qu'ils auront à cœur de faire une meilleure prestation. Maintenant, de là à nous voir gagner au Bernabeu, il y a un monde. Je pense dans une année normale, c'est quelque chose qui aurait été possible. Je sais qu'on a des très bonnes individualités devant, on reste quand même une bonne équipe. On sait que le trio Baena, Sorlot et Gérard Moreno peut faire des dégâts balle au pied et fait toujours du bien à l'équipe. Mais c'est vrai que défensivement, c'est très faible. Heureusement, Vinicius n'est pas disponible parce que là, ça sera sûrement un latéral de la B qui va jouer. Donc, avec un Vigny en forme, ça nous aurait fait mal, mais malgré tout, le Real reste un rouleau compresseur. Donc, ce match me fait peur. J'espère un match nul, mais je m'attends à une courte défaite, j'espère. Et ça va surtout être le retour de Baena et de Valverde sur un terrain après ce qui s'était passé l'année dernière. Donc, j'ai un peu peur de ce qui va se passer.
Tu fais bien de le mentionner, mais c'est vrai que finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié cette histoire, mais ça va être intéressant de voir comment les deux vont réagir. En plus, ils sont dans une zone du terrain qui, relativement, peuvent se confronter.
Ouais, totalement. Ouais.
Donc, ouais, ça va vraiment être intéressant de voir comment les deux vont réagir. Je pense que, quand même, les deux vont être briefés.
Oui, ils c'est vont, sûr.
Les coachs vont leur dire, bon, on connaît le passif avec ce joueur-là. Alors là, on ne fait pas trop, on ne met pas un coup inutile, machin. Parce qu'ils savent que ça peut très vite partir.
En plus, nous, pour le coup, Baena, on sait que c'est un joueur assez nerveux, même si sous Marcelino, ça s'est beaucoup calmé, mais il a quand même déjà pris 2 rouges cette année. Sous Pacheta, il est sorti plusieurs fois parce qu'il prenait des rouges sur des gestes d'énervement. Donc, il a l'air d'avoir mûri, mais dans une situation aussi compliquée avec Valverde, je ne sais pas lequel des deux craquera en premier.
Après, normalement, Valverde, ce n'est pas le genre de joueur qui vient non plus engrainer, oui, mais... Le problème, c'est que bon, j'étais pas sur le terrain, donc on peut pas savoir ce qui s'est vraiment dit. Mais si les accusations sont réelles, de ce qui avait été dit à De Baena à Valverde, on peut imaginer que Valverde a dû.
Oui, c'est sûr.
Énervé, quoi. Et après, c'est normal. Et comme je le dis, je sais pas si c'est vrai, j'étais pas sur le terrain, donc voilà. Mais si les accusations sont vraies.
On saura jamais, je pense, de toute façon. Mais...
Valverde et Baena qui le savent.
C'est sûr.
Si c'est vrai, je pense qu'il va le valider de quoi être énervé. Il le montrera forcément.
Ouais. Dans tous les cas, on ne le saura jamais. J'espère que les deux, moi je parle surtout pour Baena, je ne me fais pas de soucis des deux côtés, mais que les deux sont professionnels et que voilà, c'est enterré et donner le meilleur pour son équipe, chacun de leur côté, ce sera le plus important.
Clairement, et puis comme je l'ai dit, je pense que les deux coachs vont briefer. Je pense que les deux seront briefés. Je pense pas on aura de la communication et qu'il y a même un monde où les deux vont parler pendant le match en mode bon, ça. Voilà. C'est des professionnels, ils jouent au haut niveau, ils jouent en plus au Santiago Bernabéu. Je pense qu'ils vont être briefés.
Il y a mieux à faire, c'est sûr. Ouais. Je suis d'accord avec toi.
Exactement.
Donc, ils n'ont pas envie de donner mauvaise presse. Voilà.
En tout cas, s'il y a bien un truc effectivement qu'on peut retenir du dernier match, de la dernière confrontation, c'est qu'il y avait eu beaucoup de buts, parce que c'était la victoire de Villarreal du coup à Madrid. Donc, ça pour le coup, c'est quelque chose qu'on. En tout cas, le nombre de buts, on peut espérer revoir. Après, effectivement, je vous rejoins quant aux altercations qui n'ont pas grand-chose à voir avec le terrain. Mais voilà, en tout cas, on espère un match avec des buts. Et puis justement, ça m'amène directement à la conclusion de ce podcast avec la traditionnelle section des pronostics. Je commence d'abord avec toi, JB. Quel est ton prono pour la rencontre de ce dimanche soir?
Alors, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt... Je crois en Real Madrid, je pense que vraiment chez nous, on peut faire un match assez intéressant, on pourra mettre de l'intensité, être sérieux, sur le plan défensif tant qu'offensif. Donc vraiment, je vois un Real conquérant ce week-end, et je pense que j'espère surtout que le Real va s'imposer. Comme tu l'as dit, il y a des buts souvent dans ce genre de match-là, dans un Real Villarreal. Donc je vois une victoire du Real Madrid, 3-1, au Bernabeu ce week-end.
Ok, une victoire 3-1 du Real Madrid. C'est noté. Puis c'est vrai que oui, le dernier match aussi qu'il y avait eu tout début 2023, cette fois-ci en Copa, était un autre match avec des buts. C'était une victoire du Real Madrid, on se souvient, qui avait été assez. Qui s'était dessiné en fait en fin de match même. Hein, qui était un, un gros match ouais, en Copa del Rey où il y avait eu 3-2 aussi, mais du coup cette fois-ci en score inversé. Emeric, de ton côté, quel est ton pronostic?
Je vais partir sur un 2-2. Moi, c'est vrai qu'il y a souvent des buts. Pour redorer un peu le blason de Baena, ça reste un super joueur de football. Donc, je pense que ça sera le facteur X de ce match. C'est un peu lui qui porte notre jeu offensif. Et j'espère qu'on va serrer un peu le jeu derrière, même s'il y aura sûrement une erreur ou deux qui pourront coûter des buts. Mais j'espère un 2-2. Puis, petite rectification, j'ai oublié les blessures d'Aïssa Mendy et Denis Suarez qui sont blessés depuis tellement longtemps que j'avais oublié de citer leur nom.
Bah,
Ouais.
c'est fait en tout cas. Ouais, donc il y aura quand même pas mal d'absents finalement pour cette rencontre des deux côtés. En tout cas, merci pour le prono. Et puis je vais donner le mien avant qu'on conclue
Bah,
ce
ce que j'allais
podcast.
dire,
Moi, je...
j'allais dire, pas remettre ton pronom.
Ah, non, non, j'échappe pas à la règle. Moi, je suis certes à l'animation, mais je n'échappe pas à la règle. Non, je dirais victoire de 2-0 du Real Madrid parce que c'est quand même une équipe de Madrid qui, certes, on l'a dit, a des absents, mais qui est en forme. Et puis. Qui voilà en Liga en plus tourne bien, encaisse peu de buts. Et c'est vrai que même si ce Villarreal montre quand même parfois un meilleur visage, c'est aussi un match compliqué qui attend tout le monde évidemment, mais en particulier pour Villarreal. Et Emeric l'a dit, il y a des
Ouais.
fragilités défensives importantes. Donc 2-0 pour le Real Madrid pour ma part.
Puis en plus, si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup à prouver encore du côté du Real. Peu importe le latéral gauche, que ce soit Fran Garcia ou Ferland Mendy, les deux ont beaucoup à jouer pour savoir qui sera titulaire dans les grands matchs. Donc pareil, la concurrence sera rude. Pareil, le poste de gardien, on l'a dit, Lounine qui est pas, ça joue, donc forcément, ils auront un cas de faire un gros match. Joselu est en confiance, il sait qu'il doit gagner du temps de jeu et pour ça, faut faire des bonnes performances, donc lui aussi, il aura fort à faire. On sait que Bellingham, Rodrigo, quand la relation technique est au beau fixe, ils arrivent à faire de très belles choses. Donc non, je pense vraiment que le Real peut mettre une bonne, enfin, ce qu'il faut pour faire un gros match ce week-end, je me répète, mais j'ai vraiment confiance en ce Real-là.
Voilà, ouais, il y a beaucoup d'enjeux, tu l'as dit, pour les joueurs aussi du Real Madrid. Au-delà du résultat, voilà, effectivement, individuellement, pour beaucoup de joueurs. Et puis évidemment, effectivement, on attend aussi beaucoup du Villarreal de Marcelino. Et c'est ce qu'on suivra en tout cas ce dimanche à 21h pour la 17e journée de Liga. La dernière, l'avant-dernière plutôt avant Noël. Et puis donc voilà une des rencontres les plus importantes aussi de la saison pour les deux équipes. Et puis on arrive à la fin de ce numéro qui aura été animé, qui aura été très intéressant de parler toutes les choses qui ont pu être dites. Merci beaucoup Philippe, on rappelle de la page de Sonoristas d'être venu à nouveau dans les podcasts ici pour nous parler de ton Real Madrid.
Bah, comme d'habitude, un grand merci à vous de l'invitation. Merci à Emeric pour le débat. C'était vraiment intéressant de parler avec lui. Et je tiens à le répéter, mais à Sacha, je n'oublierai pas ton absence. Sache que ça sera gravé dans ma mémoire, bah, jamais. Je sais qu'Antwerp est un grand club de football, mais au moins, faut assumer. C'est pas grave. Par contre, ce genre d'équipe. Quatrième de Ligue belge, c'est quand même pas donné à tout le monde. Voilà. Merci, Sacha.
Voilà, bon, le message est passé au moins. Je suis sûr qu'il écoutera ce podcast et qu'il ne manquera pas
Je vais
de
quand même la lire.
réagir.
Je vais quand même la
Voilà,
lire.
c'est gentil. Et puis, hein, il y a évidemment beaucoup de matchs qui arrivent prochainement. La Super Coupe d'Espagne, notamment, on en parlait en avant-enregistrement qui arrive. Et ce sera l'occasion notamment de vous réunir à nouveau pour vous entendre à nouveau. Et puis, bah, merci beaucoup, Emery, comme l'a dit JB aussi, d'être venu pour nous parler du sous-marin jaune.
Eh bah, merci à toi, Ruben. Merci à Sacha aussi. Merci pour le travail que vous faites. Et puis, bah, merci à JB pour ce beau débat, belle rencontre. Et un petit coucou à Cyril qui doit souffrir autant que moi dans les matchs de notre équipe.
Voilà, bon, on embrasse aussi Cyril, effectivement, qui est un habitué, on va dire, aussi des podcasts qui passent très souvent. Et puis bah, voilà, on arrive à la fin de ce numéro. On espère qu'il vous aura
Merci à
évidemment.
vous-même d'avoir géré le podcast aussi. C'est important de le dire.
Mais c'est avec grand plaisir, ça c'est mon boulot. J'essaie toujours de le faire avec professionnalisme, mais tant mieux si ça t'a réjoui. En tout cas, merci beaucoup, JB. Et puis bah, voilà, merci à tous ceux qui l'auront écouté. Merci à ceux qui partageront, qui commenteront. Et puis d'ici là, on vous souhaite une bonne journée de Liga, un bon match. Et puis on se retrouve très bientôt pour évoquer à nouveau les nouvelles rencontres de Liga avant Noël et dans cette fin d'année. Bon match à tous.